Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine Gardarem la Terre sur Radio LBGS. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Hélène Maffre, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans les studios de Radio LBGS. Et on est avec vous pour parler d'un sujet un peu particulier. On va faire une émission autour du lait cru, parce qu'on a reçu un communiqué de la Confédération Paysanne il y a quelques temps à propos d'une circulaire visant à interdire le lait cru pour les enfants de moins de 5 ans. C'est quelque chose qui nous a un petit peu interloqué, donc on s'est dit qu'on allait rentrer en contact avec vous pour en savoir plus. Alors pour vous présenter un petit peu, vous êtes paysanne dans une ferme d'élevage bio et de transformation fromagère. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre exploitation et de l'histoire de votre ferme, voilà, pour nous remettre un petit peu dans le contexte.
Oui, alors je suis installée avec mon conjoint. La ferme, elle se situe à Tonac, qui est un petit village entre Cordes-sur-Ciel et Vaour, donc dans le nord du Tarn. On est à 450 mètres d'altitude. Voilà, un paysage boisé, des terres assez pauvres. C'est vraiment une petite ferme familiale. Et voilà, donc c'est la ferme familiale de Thierry, mon conjoint. Il y est installé depuis qu'il a 20 ans. Bon, aujourd'hui, il a passé la cinquantaine, donc ça fait un certain temps. Et c'était une ferme de polyculture-élevage, comme il y en avait beaucoup à l'époque.
Polyculture-élevage,
c'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire avec des animaux de toutes sortes, pas mal de cultures. Ça, c'était à l'époque des parents de Thierry. Quand Thierry s'est installé, déjà, il commençait à y avoir une spécialisation de l'agriculture. Donc, lui, il s'est spécialisé dans les vaches laitières. Et avec un petit camping à la fin, quand même, une petite activité d'agrotourisme, parce qu'on est dans un paysage qui est assez joli. Et puis, en fait, dans les années 90-2000, c'est devenu à peu près clair qu'une petite ferme comme ça, avec 24 vaches laitières sur des terres assez pauvres, pour faire du lait pour l'industrie, c'était plus viable. Donc, y a eu une année charnière, qui est l'année 2009, où Thierry n'a pas pu se payer du tout. C'était une année où on travaille 7 jours sur 7, mais à la fin, il n'y a rien du tout. Et donc, on a pris la décision. Il y avait deux choix, soit on arrêtait, soit on partait dans une autre direction. Et on a décidé de partir dans une autre direction, de faire du fromage. Voilà. Donc on est parti se former et c'est en fait, tous les deux, moi je travaille à l'extérieur, j'ai décidé d'arrêter mon travail à l'extérieur, de m'installer sur la ferme avec lui, parce que pour faire et de l'élevage et de la transformation, c'est difficile de le faire tout seul, il fallait qu'on soit au moins deux. Thierry, de ce côté, est allé se former pour faire des fromages. Et ça a été un peu son coup de cœur, quoi. Donc une double reconversion. Moi, je suis devenue éleveuse. Et lui, bon, il reste éleveur, mais enfin, il est devenu fromager passionné. Voilà, c'est ça. Okay. Et on a ouvert la fromagerie en 2012. Voilà.
Et juste une question, est-ce oui. que cette phase de transition, est-ce que vous étiez en bio déjà avant? Est-ce que
Alors on n'était pas en bio, Thierry il a toujours pratiqué une agriculture, on va dire, paysanne, familiale, c'est-à-dire sans pousser trop ni les vaches ni les terres, mais il était quand même en conventionnel, donc avec un peu d'utilisation d'engrais azotés sur les cultures, etc. L'élevage a toujours été très, très tranquille, qu'on n'a jamais... bourré d'antibiotiques, les vaches allaient toujours dehors, voilà. Donc ça a été assez facile, l'évolution, elle s'est faite toute naturellement, en fait, en faisant des fromages et en cherchant à bien nourrir nos vaches, on s'est retrouvé en bio, en fait, naturellement. Donc le passage officiel en bio, il s'est fait qu'en 2017, pour des raisons un peu techniques liées à nos bâtiments, etc. Mais ça faisait longtemps, ça faisait depuis 2010, en gros, qu'on était en bio dans la pratique. Et voilà. Et ensuite, donc pour terminer sur l'évolution de la ferme, en 2009, donc il y avait Thierry qui était tout seul sur la ferme, qui ne vivait pas de l'agriculture. Aujourd'hui, on est en train d'installer une troisième personne. Donc en 2019, 10 ans après, et on est quasiment sur, on arrive à dégager donc 3 salaires. On n'a pas augmenté la surface ou quasiment pas. On a récupéré 7 hectares à côté. On n'a pas augmenté le nombre de vaches. Donc c'est vraiment le bio et la transformation fromagère qui a sauvé cette ferme et qui en plus a permis de créer 3 emplois. Voilà.
Waouh. Ça c'est un exemple concret comme quoi.
Très positif. Après, ça se fait avec beaucoup de travail. Enfin, on va pas tout n'est pas rose. On se pose quand même beaucoup de questions sur la masse de travail que ça représente. Oui. Mais c'est une fierté retrouvée. Ça, c'est vraiment le plus important. On part d'une situation où on est complètement dévalorisé. On fixe pas ses prix. C'est l'industrie qui fixe les prix pour nous. Et évidemment, elle les fixe très bas. Et 10 ans après, c'est nous qui fixons les prix. Et puis, on est fiers de ce qu'on fait, quoi, de nos fromages. Et voilà.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi le cœur de la problématique des agriculteurs, comme on entend beaucoup parler, notamment avec la sortie du film Au nom de la terre, je ne l'ai pas encore vu, mais enfin voilà, on parle de cette spirale d'endettement pour pouvoir produire toujours plus, parce que les prix baissent, donc il faut produire plus, et donc du coup on se met dans des
spirales. Et on se retrouve enfermé dans une spirale où on n'a pas forcément choisi, quoi. Les paysans aujourd'hui qui ont des pratiques très industrielles, je pense que voilà, et c'est aussi le fruit d'un endettement et du fait qu'on est plus libre de ses choix. Bon, nous, on avait la chance, même si en 2009 la ferme elle ne dégageait plus rien, Thierry n'était pas très endetté. Voilà, il était chez lui, c'était la ferme familiale, donc on a pu prendre ce virage. C'est pas toujours possible quand on est très très endetté, très dépendant des banques.
Oui, et puis aussi un discours ambiant qui était celui de toute façon vous pourrez pas vous en sortir si vous faites pas ça. Donc
il faut arriver à assumer, avoir son libre arbitre, arriver à se dégager effectivement du discours d'un certain nombre de conseillers
agricoles qui
sont là pour nous vendre des choses avant tout.
Voilà. D'accord. Et alors donc merci beaucoup pour cette mise en contexte un petit peu. On va parler du lait cru. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement c'est quoi le lait cru et donc la différence avec le lait pasteurisé, puisque c'est un peu ça le cœur de la question.
Voilà. Donc le lait cru, d'un point de vue, on va dire, réglementaire, c'est un lait qui n'a pas été chauffé au-delà de 40 degrés. Ça, c'est la définition réglementaire. Alors pourquoi qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans du lait cru, c'est-à-dire quand on vient de traire la vache, il y a une diversité microbienne. Voilà. Donc le lait, en fait, il sort du pis de la vache stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-organismes dedans, mais dès qu'il sort du pis de la vache, il y a une contamination qui se fait en bonnes bactéries. Bon, les plus connues, c'est les bactéries lactiques. Voilà. Et donc, voilà, le lait est vivant. Le lait cru est vivant. Si on le chauffe au-delà de 40 degrés, on enlève cette flore microbienne. Voilà, donc c'est ça la différence entre le lait cru et le lait pasteurisé. Le lait cru, il est vivant, il a une flore microbienne qui va permettre tout un tas de choses derrière, faire des fromages, bien sûr. Mais aussi, si on le boit, ben c'est très bon pour le microbiote. Voilà, on va boire un lait vivant. Le lait pasteurisé, je vais pas dire qu'il est mort, parce que ça fait un peu, c'est très négatif, mais en tout cas, il n'y a plus de vie microbienne dedans.
Oui, parce que du coup, ça peut peut-être inquiéter, mais bon, il faut rappeler aussi que nous, on est plein de bactéries à l'intérieur.
Alors, voilà.
Et qu'il faut les maintenir et que de toute façon, on serait en très mauvaise santé si on n'avait plus de bactéries à l'intérieur de notre système.
Il faut savoir qu'on a plus de cellules. Les cellules de notre corps sont moins nombreuses que les cellules des microbes qui sont dans nos intestins, sur notre peau, partout dans notre organisme. Donc, c'est évident que sans micro-organismes, on n'existe pas, on ne peut pas vivre. On est mort, quoi. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études qui sont sorties sur le microbiote, l'intérêt du microbiote, le lien entre un microbiote un peu dégradé et certaines maladies, modernes, de civilisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même assez acquis que c'est important d'avoir un microbiote vivant, diversifié. Voilà.
Oui. Et donc du coup, on est quand même dans une phase où on va vers toujours plus de normes qui voudraient nous imposer un système sanitaire très, très très sain, c'est-à-dire sans aucune bactérie, sans rien. Voilà. Il faut que on appelle maintenant les laboratoires pour transformer la nourriture. On appelle ça un laboratoire parce que ça ressemble presque à quelque chose de comme un laboratoire de chimie où les gens sont très très propres, il n'y a rien qui doit passer. Et du coup, quelle est la conséquence de ça, de cette volonté de vouloir aller vers toujours moins de microbes sur justement le lait cru et donc son utilisation pour produire des fromages et puis tous les produits aussi qui sont ça va faire cliché, mais notre patrimoine, quoi. Enfin, nous, ce qu'on produit.
Ah, mais non, mais c'est clair, il n'y a qu'à parler que du Roquefort pour parler du fromage le plus connu, le plus proche d'ici. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille à une échelle industrielle, il faut être hygiéniste. On est obligé d'être hygiéniste parce que c'est trop compliqué de gérer le vivant à une échelle industrielle. Donc c'est pour ça que dans les 30-40 dernières années, il y a toute une batterie de normes hygiénistes qui s'est mise en place, mais j'ai envie de dire avec raison pour les acteurs industriels, parce que sinon, effectivement, on a des risques de produits qui seraient pas sains pour la santé. Le problème, c'est de vouloir appliquer ces normes hygiénistes à toutes les pratiques. Alors, les petites pratiques artisanales, fermières, donc, en premier lieu, le lait cru, vouloir leur imposer des pratiques hygiénistes, ça revient à les empêcher de travailler. Moi, si on m'oblige à complètement désinfecter, nettoyer mes vaches, ça veut dire que mon lait cru, en fait, il sera peut-être cru en théorie, mais il n'y aura pas de bonnes bactéries dedans. Et même éventuellement, il y aura plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Et on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire du fromage avec ça. Voilà.
Alors justement, là, vous parlez de bonnes et de mauvaises bactéries. Tout à l'heure, vous m'aviez un petit peu expliqué qu'il y avait des personnes qui avaient fait des études sur le développement des mauvaises bactéries dans le lait cru et le lait pasteurisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un petit peu plus en détail ?
Voilà, maintenant, il y a des études scientifiques que l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique, a mené, notamment avec les AOC du Massif Central, qui sont toutes au lait cru et qui ont bien compris les enjeux de... Donc, c'est des AOC qui travaillent avec beaucoup, beaucoup d'éleveurs à une échelle industrielle, mais elles font quand même du lait cru. Donc elles ont bien compris que c'était très important de bien comprendre ce qui se passe au niveau du lait cru, la transformation, pour que leur fromage soit à la fois bon grâce au lait cru, mais sain, qu'il n'y ait pas de risque pour la santé. Et donc, il y a une chercheuse qui s'appelle Marie-Christine Montel de l'INRA, qui a publié dans des revues scientifiques ses travaux. Et en premier lieu, donc, elle montre qu'elle a mis en évidence l'effet barrière, ce qu'on appelle l'effet barrière d'un lait cru. C'est-à-dire qu'un lait cru qui est chargé en bonnes bactéries, comme les bactéries lactiques, si jamais, par hasard, on a dans le troupeau un problème et qu'il y a une mauvaise bactérie qui se balade par là, type Listeria, pour citer la plus connue, les bactéries lactiques vont être capables de se défendre contre cette bactérie pathogène. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet barrière, voilà, qui permet d'avoir un effet protecteur du lait cru par rapport à du lait pasteurisé. Donc, elle s'est amusée, à injecter de la Listeria dans des laits crus et dans des laits pasteurisés, et elle montre très bien que dans le lait pasteurisé, comme il n'y a pas d'effet barrière, la Listeria va se développer de manière exponentielle, alors que dans le lait cru, la Listeria va être contrôlée. Il n'y aura pas de souci, quoi.
Merci beaucoup, Hélène Maffre, pour ces explications. Je rappelle donc que vous êtes paysanne dans une ferme d'élevage bio et de transformation fromagère et adhérente à la Confédération Paysanne. Oui. Je ne sais plus si on l'avait précisé en début d'émission. pour parler du lait cru et donc de cette circulaire qui vise à interdire la consommation de lait cru pour les enfants de moins de 5 ans. Donc on va arriver un petit peu au cœur de la problématique. D'où vient cette circulaire ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous l'avez reçue et pourquoi ça vous a fait réagir particulièrement ?
Oui. C'est une circulaire qui date de mai 2019, donc il n'y a pas très longtemps. Nous, on a commencé à en entendre parler dans la petite cantine locale qu'on livrait, en fait. Donc, en juin 2019, les élus nous ont dit, voilà, on a reçu ça. On va voir comment on peut le gérer. Donc, concrètement, c'est une circulaire qui dit qu'il est interdit de donner des produits au lait cru en cantine collective. On parle de restauration collective. Aux enfants de moins de 5 ans parce qu'il y a eu des cas d'intoxication alimentaire. Donc concrètement, dans une école primaire, il y a des enfants à partir de l'âge de 3 ans. C'est très compliqué pour les cantines, surtout quand ce sont des cantines, des petites cantines rurales qui essayent de cuisiner, qui n'ont pas énormément de main-d'œuvre. C'est très compliqué de séparer, de faire un menu séparé pour les enfants de moins de 5 ans. Tiens, toi, tu vas avoir du kiri et les autres, ils vont avoir du fromage blanc battu de la vacherie de Rivette. Voilà. Donc concrètement, ça revient à interdire tout simplement les produits au lait cru dans les écoles primaires. Voilà. Donc à la Confédération Paysanne, nous ce qu'on dit c'est que d'une part, des risques, des intoxications alimentaires, bien sûr que ça peut exister. Les données montrent que les fromages en général, on ne parle pas là
que du lait cru, on parle
des fromages en général, pasteurisés ou au lait cru, ils sont responsables de 3,5% des intoxications alimentaires collectives au niveau national. Donc pourquoi à l'intérieur de ces 3,5%, on prend le lait cru et on dit c'est celui-là qui pose problème? À ce moment-là, pourquoi on ne parle pas des aliments transformés, industriels, qui sont aussi sujets à des risques de retrait, de contamination, de la charcuterie, de la viande hachée? Enfin, on sait très bien qu'il y a des produits qui sont très risqués. Ça nous interroge un petit peu et à vrai dire, on n'a pas eu trop de réponses du ministère par rapport à ça.
Surtout les grosses histoires, en tout cas les histoires qu'on a le plus médiatisées par rapport aux intoxications collectives, c'était en général plutôt vers des produits très industrialisés que des produits issus d'une agriculture paysanne.
Voilà, donc on a un peu l'impression qu'il y a eu quelques cas d'intoxication alimentaire. On parle de 10 cas en 2018, à l'échelle de ce qu'on prend dans la restauration collective, il faut quand même relativiser. Et que, on ne sait pas, quel fromage, donc là on n'a pas de détails. Mais on a un peu l'impression que on va dire que c'est interdit aux enfants de moins de 5 ans pour dire qu'on a fait quelque chose, quoi. Et puis ce sera le fromage au lait cru qui paieront la note, c'est pas grave, on est moins puissant que les industriels, on est moins gênant, quoi, entre guillemets. Donc ça nous interroge un peu. Après au niveau de la restauration collective, Il y a quand même des enjeux proches qui sont d'augmenter la part, donc jusqu'à 50% de produits alimentaires durables, bon, sans qu'on sache exactement comment ça va être défini. Il faudra aussi qu'il y ait 20% de produits issus d'agriculture biologique dans les cantines à partir du 1er janvier 2022.
Oui, on remarque qu'on est quand même dans une tendance d'aller
voilà,
vers ça.
Donc globalement,
on est aussi, notamment, je sais que sur la journée organisée chaque année à Fond-Labour, on avait reçu aussi un maire d'une ville qui avait, il y a aussi des décisions qui sont prises au niveau municipal qui disent, moi, je veux que ma cantine, elle soit alimentée uniquement en local par des fermes.
C'est le cas de la cantine de notre territoire. Alors uniquement, c'est quand même pas à ce point-là, mais ils essayent depuis 5-6 ans de se fournir auprès de producteurs locaux chaque fois que c'est possible. Donc on voit bien qu'il y a une tendance de fond en fait des élus en tout cas et évidemment des parents d'élèves. Il y a une demande de se tourner vers des produits locaux, de qualité, on sait d'où ça vient, pas hyper transformé. Alors cette directive, est-ce que par hasard elle serait pas là pour essayer que le balancier aille un peu dans l'autre sens, parce que ça gêne des intérêts industriels quoi.
Oui. Alors du coup, pour revenir juste là-dessus sur ce point-là, vous me disiez aussi qu'il y a quand même des industriels qui fabriquent des produits à base de lait cru.
Tout
aussi.
À fait.
Donc
voilà.
Vous disiez que c'était compliqué au niveau industriel, mais ça existe.
Ça existe, et voilà, tout à fait, ça existe. Alors dans les fromages industriels au lait cru, dont j'ai parlé tout à l'heure des AOC du Massif Central, il y a un certain nombre de collectifs de production, d'entreprises industrielles qui font du fromage au lait cru, qui ont pris la mesure de l'intérêt d'avoir du lait de qualité et qui travaillent avec leurs producteurs en les payant correctement pour qu'au niveau de l'élevage, il y ait des pratiques qui permettent d'avoir un lait de qualité. C'est clair que ces pratiques, souvent, elles ont un coût et que donc il faut mieux payer l'éleveur. Voilà. Puis, il y a des industriels qui, envers et contre tout, veulent absolument payer le prix le plus bas aux producteurs. Et donc, ils ont du lait de M. Voilà.
De mauvaise qualité.
De mauvaise qualité. Et ils ont de grands soucis pour faire du fromage au lait cru. Voilà. Je crois que le plus connu d'entre eux, c'est Lactalis. Pour ne pas le nommer. Donc, pour faire du fromage au lait cru, il faut du lait de qualité. Et pour avoir du lait de qualité, il faut... respecter les producteurs, que les producteurs puissent travailler correctement. Voilà, c'est-à-dire alimenter leurs vaches correctement, sans les gaver d'ensilage et d'aliments concentrés. Il faut qu'elles sortent. Il faut qu'elles sortent, qu'elles soient en contact avec l'herbe. Et ça, quand on paye le lait avec un lance-pierre, on n'incite pas les producteurs à faire ça. Voilà.
Et oui, on les a incités à plus de rentabilité et à devenir des producteurs. Quoi.
Voilà. Donc aujourd'hui, la plupart du lait collecté par Lactalis, il est produit par des vaches qui ne sortent pas, qui sont hors sol.
Ouais. Voilà. Et peut-être pour revenir justement sur ce lien entre l'éleveur et l'animal, récemment j'ai vu un film qui était complètement orienté autour de l'agriculture mondiale et de ces problématiques-là, ça s'appelle Les Dépossédés, c'est un très bon film que je conseille à tout le monde vraiment, et justement il parlait du fait qu'en même pas une vie, on a vu les élevages, en tout cas, enfin c'était un agriculteur suisse qui parlait de ça et qui disait, il y avait des petites exploitations, pas beaucoup de bêtes, on les appelait par des noms, et puis ensuite c'est devenu des numéros, et puis ensuite l'agriculteur est devenu un numéro dans la coopérative. Et tout ça est assez inquiétant.
C'est triste même. Et oui, on peut pas nier qu'il y a cette évolution là. Après, justement, la production fermière, la production biologique, la vente directe, ça permet de garder des fermes à taille humaine. Nous, donc, on a 25 vaches. Elles ont toutes un prénom. On met tout en œuvre au niveau de la façon de les élever pour qu'elles vieillissent le plus longtemps possible sur la ferme, quand on essaye de pas... nous, une vache, si elle part avant ses 12 ou 13 ans, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà. On essaye vraiment de les faire vieillir le plus possible. Et donc, on passe beaucoup de temps avec elles, en fait. Mmh. Voilà. On connaît leur caractère, on connaît leurs points forts, leurs qualités, leurs défauts. Voilà. Y a une vraie relation avec nos animaux. C'est sûr que quand on a 1000 vaches, pour parler de la ferme aux 1000 vaches, heureusement, toutes les fermes n'en sont pas là. Mais c'est sûr qu'au-delà d'un certain nombre, ça devient plus compliqué d'avoir...
De se rappeler des prénoms.
Voilà, d'avoir cette relation-là, quoi. Si on a un robot de traite, si les vaches ne sortent pas, on les manipule moins, forcément. Mm-hmm. Nous, on a une étable à l'ancienne, on les manipule tous les jours, on les sort tous les jours, donc forcément, il faut qu'il y ait une grande confiance entre les éleveurs et entre nous et les vaches, quoi, voilà.
Et donc vous êtes un exemple quand même d'une exploitation qui a réussi sa conversion, sa transformation, pour sortir un peu de ce système-là qui mène beaucoup d'agriculteurs au désespoir, voire au suicide, malheureusement. Mm-hmm. Et est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus? Est-ce que vous en entendez parler un peu autour de vous de plus en plus? Est-ce que c'est un discours qui trouve aussi écho chez les agriculteurs qui arrivent se remettre en question et à aussi questionner tout ce qu'ils ont appris depuis des années et qu'ils doivent déconstruire?
Je pense qu'on n'est vraiment pas tout seul à avoir envie de ça. Après, voilà, la question, c'est est-ce que tous les agriculteurs ont la possibilité, la liberté de faire ça par rapport à leur endettement, par rapport à la pression qu'ils ont sur les épaules. Voilà. Ça m'est arrivé de faire des formations de pâturage tournant. Bon, c'est une technique pour faire pâturer les vaches avec un éleveur qui avait ses vaches à l'intérieur et qui souhaitait les refaire sortir, les refaire pâturer. Ben, c'était loin d'être simple. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a mis en œuvre, mais en tout cas, voilà, il avait la démarche de venir se former et de venir réfléchir dans un groupe. Voilà, comment je peux faire pour refaire pâturer mes vaches dehors. Voilà. Donc je pense que cette prise de conscience, elle existe. Je pense qu'on est plus heureux quand on a ces vaches dehors et quand on a une relation avec ces vaches comme celles dont j'ai parlé, mais malheureusement la pression économique fait que c'est pas toujours possible, quoi.
Merci beaucoup Hélène Maffre, je rappelle donc que vous êtes paysanne dans une ferme d'élevage bio et de transformation fromagère, adhérente à la Confédération Paysanne. Merci beaucoup de tous vos éclairages sur cette problématique du lait cru. Alors est-ce que vous avez en ce moment à la Confédération Paysanne peut-être d'autres champs d'action? On entend parler notamment d'une ferme du côté de l'Escout. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, tout à fait, la Confédération Paysanne se mobilise aux côtés des habitants qui sont vraiment opposés à l'extension d'un poulailler industriel. Donc il y a eu le 13 octobre dernier la fête à ma poule à l'Escout. Voilà. Et donc très très mobilisé, oui, pour éviter ça.
Donc, l'idée, c'est d'agrandir, c'est ça?
Oui, c'est un agrandissement d'un poulailler existant. Mm-hmm. Ouais, voilà. Et donc pour de l'élevage industriel, des poules qui sortent pas, etc. quoi.
D'accord.
Et
donc il y a des mobilisations actuellement,
oui,
on peut continuer à aller se renseigner peut-être notamment sur vos réseaux sociaux.
Oui, voilà, internet, par exemple sur la page Facebook de la Confédération Paysanne, par exemple.
D'accord.
Oui. Et puis voilà, l'autre actualité, c'est qu'il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures de biosécurité, c'est-à-dire, ça rejoint un peu quand même le thème du lait cru, c'est-à-dire qu'on impose des normes de protection par rapport à une maladie qui s'appelle la peste porcine. Donc c'est une maladie qui effectivement peut être très délétère pour les cochons ou les sangliers d'ailleurs.
Oui, c'est que pour les animaux.
Voilà, mais qui n'est pas transmissible à l'homme. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas transmissible à l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle une maladie économique. Alors elle est pas dans le Tarn, en fait, elle est à la frontière belge. Elle est pas encore en France. Mais si la France veut rester entre guillemets avec le statut indemne de la peste porcine et pouvoir continuer à exporter du cochon, notamment en Chine, qui elle à la peste porcine, donc qui est très demandeuse d'importer du cochon, il faut que l'État français montre que vraiment il fait tout ce qu'il faut pour empêcher la propagation de la peste porcine. Et en gros, dans l'état actuel de ce qui est pensé, les élevages de plein air de cochons, comme on en a notamment sur Vaour, enfin il y en a quelques-uns sur le Tarn, serait quasiment impossible parce qu'il y a des obligations de complètement clôturer, séparer.
Oui, j'ai vu ça, voilà. Même des clôtures électriques de plus de tant de mètres.
Oui, et puis des clôtures physiques. Fixe très haute, double clôture, ouais. Donc ça a un coût qui est colossal pour les paysans. Ça veut dire aussi comment on peut plus traverser la ferme. Là, on avait une ferme ouverte sur une ferme qui est traversée par un sentier de randonnée voulu par les éleveurs, parce que ça permet de montrer son élevage. On voit les cochons qui sont dehors, qui sont tout contents. Voilà, donc c'est plus possible, quoi, avec ce genre de mesures. Et donc, ce qu'on dit à la Confédération Paysanne, c'est toujours pareil. C'est des normes qui sont... en fait, la peste porcine, elle vient par l'élevage industriel, par l'élevage concentrationnaire. Et là, effectivement, s'il y a la peste porcine qui rentre dans un élevage concentrationnaire, tout le monde meurt. Ils sont tellement... Donc pour lutter contre ce problème, on impose des normes à tout le monde, et y compris à des éleveurs qui n'ont rien à voir avec ces pratiques-là. Voilà. Donc,
Et justement, bon. La question que je me pose, est-ce que vous pensez que ce serait faisable de faire justement deux types de normes? De dire, y a quand même une différence claire entre les élevages industriels où toutes les bêtes sont entassées les unes sur les autres, où c'est tout aseptisé, donc où il y a un très fort risque de développement, et justement les autres élevages, est-ce que ce serait possible légalement
de faire ça? Un des gros travaux de la Confédération Paysanne depuis toujours. D'ailleurs, sur les fromages au lait cru, on a effectivement des normes, on a réussi quand même à adapter certaines normes pour les producteurs fermiers, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens. Donc on a quand même en France la chance d'avoir fait ce travail-là, et la Confédération Paysanne y a beaucoup contribué. Et donc là, sur la grippe aviaire, il y a eu la même problématique il y a 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Là encore, la Confédération Paysanne a réussi à négocier avec l'État un guide des bonnes pratiques adapté aux petits élevages d'élevage de volailles, donc autarciques, plein air. Donc ça a permis quand même de limiter la casse de ces normes. Et donc sur l'élevage plein air de porc, c'est un peu le combat actuel, et d'arriver à défendre ces élevages familiaux de petite taille. Voilà.
En quoi ça sert de faire entendre sa voix?
C'est on essaye. Voilà.
Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'être venu nous expliquer tout ça dans les studios. Avec grand plaisir, Hélène Maffre, je rappelle, donc vous êtes paysanne dans une ferme d'élevage bio et de transformation fromagère, également adhérente à la Confédération Paysanne. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler le nom de votre ferme, et si jamais on est intéressé pour déguster vos bons fromages, où est-ce qu'on peut trouver ça?
Donc c'est la Vacherie de Rivette, et donc on est situé à Tonnac, donc dans le nord du Tarn. Après, on nous trouve dans le quartier, pas très loin, à la MAP d'Albi la Badelaine.
D'accord, vous avez un site internet,
Julia.
Peut-être.
Oh oui, on a un site internet, Vacherie de Rivette, on nous trouve très facilement sur internet. Et justement, il y a une page où il y a tous les points où on peut nous trouver sur Albi.
Ok, voilà. Ça marche. Ben, merci beaucoup à vous,
avec plaisir.
Au plaisir de vous recevoir pour une prochaine émission.
Merci.
Merci, bonne journée, à bientôt. C'est la fin de ce magazine Gardarem la Terre sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Si jamais vous avez manqué le début, on rappelle que vous pouvez le réécouter en podcast en passant par notre site internet radioalbigès.com. À l'onglet podcast, où vous pourrez accéder à toutes nos émissions enregistrées et les écouter quand vous voulez. Merci à vous, très bonne journée à l'écoute de Radio Albigès, et Alcop Kévé.